la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Joyeux anniversaire,
popo.
Joyeux anniversaire, popo.
Joyeux anniversaire, popo.
Joyeux anniversaire.
Ouais. Pauline a 24 ans.
Exactement.
C'est ça. Et Valérie en a 48, mais elle n'est pas là, donc on peut dire. Elle va arriver tout à l'heure. Allez, salut à toutes
en déambulateur ou
peut-être, hein, c'est pour ça qu'elle est en retard.
Eh oui,
aussi
peut-être.
Bien. On m'entend ça. Elle va arriver. Allez, une 34e émission. Aujourd'hui, un peu spéciale, car c'est une émission spéciale sélection d'Elga qui est là. Salut Elga.
Salut.
Elga qui a le mérite d'avoir travaillé auprès d'Héloïse.
Oui, tout à fait.
Et qui en est ressortie vivante.
Effectivement, j'ai
réussi à survivre.
Et
qui fait quoi maintenant, Elga ?
Pardon ?
Et qui fait quoi ?
J'ai fait des études pour être libraire. Et donc, c'est dans le cadre de ces études-là que j'ai fait un stage à la Lorgnette avec Héloïse.
D'accord. Et là, donc, tu nous as fait une proposition.
Et là, j'ai sélectionné quelques livres que j'avais envie de vous présenter.
Très bien.
Et qu'on va découvrir dans cette émission avec Nico qui est là. Salut Nico.
Salut.
Je ne me suis pas trompé de prénom, tu as vu ?
Oui, je vois.
C'est bien. Salut Héloïse qui est revenue.
Salut tout le monde.
Alors Héloïse, bonnes vacances ?
Oui, super. Je rentre reposée et de bonne humeur.
D'accord. Elle était bien.
En passant par la Lorraine avec mes sabots, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'elle était bien la dernière émission ? Vu que tu n'étais pas là, j'imagine que tu as un regard dessus.
Je l'ai écouté
en podcast.
Quoi ?
Vous savez quand même qu'on peut écouter les émissions en podcast. Enfin, à part Héloïse qui ne savait pas, mais sinon.
Mais si je savais, bien sûr que je savais, je n'ai pas encore eu le temps, c'est tout. Oui.
Bon, Popo, salut.
Salut tout le monde.
Bon, ça va ? T'es en forme ?
En pleine forme.
En pleine forme ? Mmh. Ouais, le temps n'a pas d'effet sur toi ?
Non, pas du tout, absolument pas. À 24 ans, non.
Et non, pas encore. Allez, on commence par qui pour cette sélection ? Qui c'est qui veut commencer ?
Moi.
Allez, Benico, t'as gagné.
Non, j'aime pas finir, moi, j'aime bien commencer.
C'est bien, tu as raison.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Mes seuls dieux » dans les éditions donc, Zulma, un peu spécialisé.
Oh là
dans...
Pardon, Valérie arrive.
On a quelqu'un qui...
Et il faut pas commencer quand quelqu'un est en retard, Nico, tu le sais pourtant.
C'est vrai, ouais, elle te casse tout. Alors on a quelqu'un qui rentre dans le studio avec des gâteaux pour un fameux anniversaire de 24 ans, donc de Popo. Elle a 47 ans et c'est Valérie qu'on est très heureux d'accueillir. Bonjour, bonjour Valérie.
Allez Nico.
Oui. Donc voilà, je reprends après cette courte coupure. Donc Mes seuls dieux, édition Zulma de Anjana Apachana. Alors c'est pas une péruvienne, non. C'est une indienne qui est née au sud de l'Inde et qui a fait ses études à Delhi et en Pennsylvanie aux États-Unis. Et qui en 92, elle publie en Angleterre Mes seuls dieux qui sera primé. Voilà, elle fait beaucoup d'investigations sur la sociologie, l'imaginaire indien, avec quand même une particularité, c'est qu'elle est, elle est quand même assez branchée sur le féminisme, mais pas un féminisme de réaction, mais plus de constat, de voilà, un féminisme de sociologie. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, elle parle en fait des différents systèmes de caste qui existent encore, voilà, en Inde, avec un monde qui s'est complètement transformé depuis quelques décennies, un monde donc indien qui est devenu moderne, voilà, très très moderne, qui a inclus dans son système pas mal de nouveautés, hein, et en même temps qui a gardé une tradition et un système de caste avec des valeurs, des repères, des positions de la femme, toujours ancrées dans le traditionnalisme. Donc le livre qu'elle nous donne à lire, c'est en fait un livre qui est composé de 8 nouvelles qui parlent d'amour, de cruauté, de songerie amère, tendre, de conflit, voilà, cocasse, voire même tragique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la société indienne d'aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement complexe. En fait, c'est ce qu'on ressent en lisant ces 8 nouvelles. Et en fait, on a vraiment un système ancestral, archaïque, voilà, avec des castes et beaucoup de superstitions, et puis beaucoup de dieux, hein, voilà. Et puis des interdictions aussi, énormément d'interdictions. Vous avez peut-être suivi un petit peu l'affaire des intouchables aujourd'hui, qui sont en voie de changer un petit peu de situation. Les intouchables qui étaient les seuls en fait à s'occuper des latrines des autres, et donc parce qu'ils s'occupaient des latrines, ils étaient intouchables. Et donc ils accédaient pas à un certain niveau de vie dans la société.
Il fait des bruitages en même temps, t'as vu, Héloïse ? Il est fort, hein ? Vas-y, continue.
J'attends le moment où tu vas prendre la parole.
Qui t'a dit que j'ai peut-être pas lu de livre,
hein ? Oui, mais là, c'est pas lire, en fait.
Peut-être.
Voilà, ouais, et donc...
Je suis un intouchable.
Donc, il y a un côté entre un système ancestral très traditionnel, avec la religion, avec voilà, toutes ces superstitions, et puis une modernité occidentale qui a fait son apparition depuis les années 90, très importante. Et donc, c'est un mélange entre tout ça, avec, comme je le disais tout à l'heure, un brin de féminité, un brin de constat dans cette société de la position de la femme, et que c'est très complexe, très, très ambigu aussi. Et donc, elle parle de ça, mais elle en parle avec grâce et empathie. Et c'est pas la libération de la femme indienne, mais quelque part, ça, c'est cette approche-là, voilà, qu'elle a voulu privilégier un petit peu dans ces 8 nouvelles.
Parce que quand on voit dans l'actualité la condition justement de la femme indienne, c'est pas vraiment ça encore. Hein.
Non, c'est vrai. Dans ce livre, en fait, c'est quand même, on sent que c'est quand même une certaine élite qui parle de ça. C'est pas dans l'ensemble de la société indienne, comme j'ai dit.
C'est la condition de la femme.
C'est la condition de la femme qui.
Dans les élites.
Alors pas que dans les élites, parce que. Il y a un système d'éducation quand même en Inde, hein, qui fait que depuis pas mal d'années, les femmes ont accès à la connaissance, au savoir, à la formation, et du coup elles se posent ces questions-là. Puis la modernité, le monde occidental avec ses avantages et ses inconvénients, fait que la mondialisation amène la femme à se comparer à ce qui existe ailleurs aussi dans le monde, et du coup à revendiquer une place qui est tout à fait légitime. Voilà.
Est-ce qu'elle parle de la vision des hommes indiens envers la femme indienne ?
Alors, elle décrit, en fait, elle n'en parle pas, mais elle décrit le comportement de ces hommes. Bien sûr, par exemple, dans les bus, les hommes qui frôlent les femmes, qui leur touchent les fesses, qui ont des comportements sociaux comme ça, et que personne ne va... ne va condamner, et que même les lois aujourd'hui en Inde, il y a des femmes qui se démènent pour faire en sorte que les attouchements, les agressions sexuelles soient reconnus comme des actes.
Voilà. Sans compter les mariages forcés, les brûlages à l'acide pour refus, etc.
Et du coup, est-ce qu'on suit des mêmes personnages dans ces 8 nouvelles, ou à chaque fois ça change ?
Ça change un peu, mais il y a un fil conducteur qui fait qu'on retrouve un petit peu, enfin, il y a une espèce de continuité dans les personnages, même si ce ne sont pas les mêmes, à différents âges. Voilà, parce qu'elle parle d'une petite fille, etc.
Alors, il faut savoir, avant que tu arrives, Valérie, que Nico a dit « Ouh, je sens qu'on va déconner dans cette émission, je suis en forme ». C'est la déconnade, c'est génial.
Elga, ils sont super sérieux aussi.
J'ai loupé le début de la blague, alors.
Ouais, Elga, qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre ?
Nico a tout à fait raison sur les sujets qu'elle aborde. Moi... J'ai beaucoup été touchée par l'écriture qui est d'une grande délicatesse, qui exprime les sentiments des personnages, mais avec une certaine distance, et très douce. C'est très, très, c'est très beau, très poétique, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez quelques auteurs indiens que j'ai déjà lus. Et c'est assez intéressant de voir cette même douceur dans leurs mots, et c'est très, très
beau. Oui, c'est vrai que c'est une écriture tout en finesse, effectivement.
Voilà. Ouais. C'est écrit avec charme et délicatesse, ouais. Donc ça, c'est... J'ai pas été super conquis, moi, par l'écriture. Mais j'ai trouvé qu'on apprenait beaucoup de la société indienne. Moi, et c'est pas un regard ancien de la société indienne. C'est ça qui est intéressant. C'est un regard moderne.
Les auteurs indiens, moi, j'ai jamais été ultra conquise, en fait, par leur écriture. Mais elle a quand même cette... une douceur, un charme qui persiste dans tout au long du bouquin, quoi. Mais c'est pas forcément une écriture qui va nous prendre aux tripes, par exemple.
C'est pas du Bollywood, quoi.
D'accord. Non mais super, c'est quelle maison d'édition
Zulma, je l'ai dit.
D'accord, Zulma. En parlant de douceur et de charme, on va donner la parole à Valérie.
Oh, quelle transition.
Parce que je voulais la donner à Héloïse, mais elle est prise à faire autre chose. Alors,
C'est quoi ce doux bruit?
Donc, je viens évidemment sans notes, parce qu'elles sont restées chez moi. Donc, on va le faire en impro. Donc, dans la sélection d'Elga, j'ai hérité d'un livre qui s'appelle « Souvenir d'un mariage », qui est écrit par Louis Béglé, que l'on connaît pour avoir écrit une éducation populaire, et aussi Monsieur Smith, qui a été aussi adapté au cinéma.
Ah, Monsieur et Madame Smith.
Ont eu un fils. Comment
fils.
L'appelle-t-il?
Stan.
Ouais, parce que là,
Stan Smith. Stan Smith.
Tu prends tes baskets et tu sors.
Je vous avais dit qu'on allait rigoler dans ces deux émissions.
Qu'est-ce qu'on déconne?
Ben, moi, mon livre, il était vachement sympa, en tout cas. J'ai pas rigolé, mais c'était vraiment... Merci, Elga. Alors, je pense que ça devait pas être un vieux coup de cœur à toi, puisqu'il vient d'être édité tout,
récent,
neuf.
Hein, ouais.
Il est tout neuf, tout propre, édité, sorti en mai 2016. Ceux qui ont lu Gatsby le Magnifique et qui ont adoré, on pourrait... dire que ce livre, c'est 50 ans plus tard. On est dans le New York, donc des années...
Gatsby le Vieux.
Gatsby le Vieux, voilà, c'est ça. C'est comme Pline l'Ancien, Pline le Jeune. On a Gatsby le Jeune et Gatsby le Vieux.
Ouais.
Voilà. Et là, on est sur le Vieux. C'est une histoire d'une re-rencontre entre deux personnes qui s'étaient connues dans la haute new-yorkaise 50 ans plus tôt. Une rencontre un peu hasardeuse au théâtre. Ces deux personnages donc vont revoir une vision de ce qu'ils avaient vécu plus jeune et le document le comment ça s'appelle Philippe donc le personnage principal je galère sans mental. Philippe, le personnage principal, donc re-rencontre Lucie. Et là, Lucie, c'était une jeune fille avec qui il avait une aventure. Il avait une image de Lucie absolument fabuleuse. Lui dépeint...
Lucie, la momie, là
Non, comme la femme préhistorique qu'ils avaient trouvée.
Oui, d'ailleurs, c'était une femme préhistorique, Nico. C'était pas du tout une momie.
C'est vrai.
La
momie, une femme préhistorique. C'est que les rêves d'une femme préhistorique.
C'est ça. Oui, ils l'ont reconstitué en 3D, quand même, donc... Donc Lucie,
c'est un bout de côte, un bout de mâchoire, ouais. Et ça.
Bah ça peut fabriquer. On peut fabriquer quelqu'un avec un bout de côte. Hein.
Vas-y. Bref. Développe s'il te plaît. Parce que là j'ai pas compris.
Non, monsieur, parce que souvent il me dit oui, mais ça c'est dans la Bible tout ça et je te rappelle que les femmes ont été créées avec la côte de
la côte de bœuf. Ouais. Voilà.
Oui.
Oh, tu es bien païen aujourd'hui.
Dans la cuisse de
Jupiter.
Oui,
c'est autre chose, ouais.
C'est en grec.
Ouais. C'est pas la Bible.
Moi, je suis sur la Bible.
Jupiter, c'est pas la Bible.
Tu sais, les momies, historiques, c'est pareil, hein, Bible.
J'ai lu la Bible la semaine dernière, il y est marqué que Eve, oui, elle a été faite à partir de la côte d'Adam.
Bah, bien sûr, elle a été faite à partir de l'homme.
Si voilà, faire, de la côte.
Hein. Faire.
Pourquoi tu as choisi de faire lire la Bible, Elga? Explique-moi, qu'est-ce qui t'a touché dans ce
alors,
roman?
La Bible, grand sujet.
On n'est pas sur RCF, hein, les enfants. Hein,
c'est vrai.
Je reviens à mon livre de païen avec voilà, du sexe, merci. De l'alcool et de la drogue.
Ouais, je préfère.
Donc, notre protagoniste, non, c'est pas la même Lucie.
Excuse-moi.
Notre protagoniste, donc Philippe, rencontre Lucie avec qui il avait eu une aventure plus jeune, avec qui ils avaient vécu quand même de grands moments, notamment à Paris. Et elle va lui raconter, en fait, elle, avec des retours en arrière, le comment elle a vécu les années, moi j'aime bien appeler ça les années Gatsby, je crois que l'auteur décrit ça comme des années Fitzgeraldiennes, en rapport à Ella Fitzgerald. Et c'est très beau parce que on voit le côté le côté la face cachée en fait de cette période américaine de cette société le café society à fond et c'est sympa c'est un peu grisant alors ça va tout doucement parce que c'est raconté par des personnages qui ont 60-70 ans donc ça va tout doucement mais c'est ce qu'il faut pour que les choses soient bien décrites.
Et du coup, ils se sont mariés avec Lucie.
Du tout. Non, non, Lucie, en fait, elle a épousé justement, c'est ce qui a fait un peu le buzz 50 ans plus tôt. Ouais. Elle a épousé le fils d'un garagiste, garagiste de Jaguar, s'il vous plaît, hein, qui est par la suite, qui est devenu un grand banquier d'affaires à Wall Street, mais avec qui elle a eu un mariage désastreux. Et justement, elle raconte avec rancœur donc à Philippe, son mariage avec ce Thomas, d'accord, qui avait fait jaser à l'époque, qui avait fait qu'elle a failli être bannie de la société ultra-bourgeoise, et avec beaucoup d'amertume, puisqu'il l'a quittée, enfin bon, bref. Et elle remet un petit peu la gloire de son mari sur ses épaules, en disant ce qu'il est devenu, c'est uniquement grâce à moi. Et on sent en fait toute l'amertume de cette pauvre Lucie. En même temps, on a envie de la plaindre, mais pas tant que ça, parce que bon, elle a quand même bien réussi sa vie en parallèle. On ressent bien la solitude que peuvent avoir des personnes passées un certain âge quand on reçoit plus de faire part de décès que de faire part de mariage. Et c'est hyper plaisant. Moi, c'est la première fois que je lisais un livre. Ça aurait pu être le thème, pour le thème d'il y a 15 jours, hein, sur les vieux. Ça serait passé nickel aussi.
Il y a un mois.
Un mois, c'était
la folie.
C'était la folie.
J'avais oublié. Ouais. Bon, il y a un mois, pardon. T'en passes tellement vite à vos côtés. Et voilà, donc c'est vraiment... C'est mignon tout plein. C'est bien écrit. C'est plein de petites piques. Ouais, ça m'a beaucoup plu.
Bon, bah, c'est bien conseillé. Voilà. Donc, Souvenir d'un mariage,
les éditions. Souvenir d'un mariage, c'est aux éditions Piranha. Et c'est écrit par Louis Béglé. Et quand j'ai commencé à le lire, j'étais persuadée que c'était une femme qui écrivait, en fait. Tellement il décrivait bien comment les femmes, on peut être amères et méchantes quand on nous fait du mal.
D'ailleurs, c'est un prénom féminin, Louis.
Tout à fait.
C'est vrai. Hein,
tout à fait. Helga, tu veux dire un mot sur ce livre?
Alors, moi, j'ai, comme Valérie, ce qui m'a plu au premier lieu, c'est... ces allers-retours entre passé, présent, les années 50, entre Paris et New York, haute bourgeoisie. Et c'est très plaisant de découvrir cet univers à travers des souvenirs. Donc on sent que c'est un peu poussiéreux, mais c'était pas si loin, mine de rien. Et ouais, il y a cette femme, Lucie, qui est très rancunière, qui est amère, mais avec le recul femme, de quoi. Philippe, c'est très intéressant aussi de voir que lui, il n'avait pas du tout... Il n'avait pas du tout la vision de son mariage, en fait. Il pensait que c'était un super mariage, qu'ils étaient très heureux. Et en fait, on découvre qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre les couples, quoi.
Justement.
Tu ne sais pas exactement la vérité, en fait. Si Lucie, elle exagère, si c'est vraiment ce qui s'est passé, vu que Thomas, il n'est plus là pour témoigner. Et elle garde cette classe qu'elle avait d'antan. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ce passage où, en fait, grosso modo, il parlait du souvenir du parfum qu'avait Lucie. Et aujourd'hui, il trouve juste qu'elle sent l'intimité ou la naphtaline.
Est-ce que ça vous est arrivé, les filles, de rencontrer un de vos ex et de parler à votre ex de votre mari actuel? Ça vous est arrivé ou pas?
Bah oui.
Ouais.
Non. Pourquoi?
Non, c'est pour savoir. Non. Qu'est-ce que vous lui diriez?
Bah je ne sais pas, parce que mes ex sont mes amis, donc du coup, on parle naturellement de... de tout ça, quoi.
D'accord, t'es trop sympa, toi.
Oui, alors ça, c'est des pratiques qui sont contemporaines, parce que...
Non, c'est des trucs de filles.
À mon époque.
Je sais pas si ça
non.
se faisait
non,
pas.
Non, mais t'en parles. Enfin, moi, pas, je...
Ça.
Non.
C'est
non.
ça, hein.
Enfin, en même temps, il n'y en a pas eu pléthore.
Qu'est-ce qui se faisait
mais...
pas de...
Bah, cette relation,
ouais. D'évoquer...
Ouais, d'évoquer.
Oui, mais là, il faut savoir que Lucie, elle a eu une période assez légère. Hein. Donc, si elle parlait à aucun de ses d'accord. ex, elle n'aurait plus parlé à grand monde. Et l'histoire qu'ils ont eue avec Philippe, elle a été, excusez-moi du terme, mais sexuellement très courte. Elle a duré une nuit. Mais par contre, amicalement, elle avait déjà commencé très longtemps avant et elle a perduré après. Donc, c'est, j'allais dire, ils ont été vraiment plus amis qu'amants. On peut même sauter la nuit qu'ils ont passée.
Sauter, c'est pas le bon mot.
Ouais, c'est pas le bon mot.
Pardon, on peut même mettre à l'oubli qu'ils ont passé.
Souvenir d'un mariage. Allez vite avant que Héloïse ne fasse n'importe quoi. Tu as un très joli pull, Héloïse, aujourd'hui.
Magnifique, hein?
Ouais, très beau.
N'est-il pas?
Ouais. Eh bien, écoute, je te donne la parole.
C'est à moi. Donc, je vais parler d'un livre qui s'appelle La Grande Panne, écrit par Adrien Klent.
C'est en lien avec l'histoire d'avant, La Grande Panne.
Voilà pourquoi ça a duré qu'une nuit.
Bon, la blague a été faite. C'est bon, on peut arrêter sur le coup de la panne. C'est bon, on l'a fait. Donc, du coup...
Merci, Valérie.
Il fallait pas la fin.
Ah, mais si, je l'attendais avec impatience.
J'ai cru que ça viendrait de Ludo, grand adepte.
C'est moi qui l'ai fait, la blague. Bah c'est moi qui l'ai faite. Mais toi, tu viens au moulin.
Ouais, mais redonner ce qui appartient à César. À César.
Et toi, je me suis lavé dans ma tête.
Faut que tu arrêtes les apéros à la Canourgue, toi.
On réécoutera l'émission en replay. Banassac. On décidera à qui.
Je rends à Ludo ce qui est à Ludo.
Merci.
Je lui rends sa panne.
Vas-y, Héloïse. Je garde ma panne.
La Grande Panne d'Adrien Klent aux éditions Le Tripode. Donc, tout part d'une explosion dans une mine de graphite dans le sud de l'Italie. Le graphite, vous voyez ce que c'est cette matière qui sert à fabriquer les obus. Donc c'est une matière très inflammable, toute noire et voilà.
Les crayons à papier aussi.
Et aussi les crayons à papier, ouais, tout à fait. Et donc c'est une explosion qui est d'origine terroriste. Donc quelqu'un a fait exploser une ancienne mine de graphite abandonnée, ce qui a créé un immense nuage noir. Et qui se déplace donc évidemment comme un nuage normal avec le vent. Et donc il faut savoir que le graphite est une substance qui prend feu au contact de l'électricité. Donc à chaque fois que ce nuage passe au-dessus de lignes électriques, le nuage prend feu et ça donne lieu à des catastrophes énormes, quoi. Donc l'Italie est obligée de couper son courant, enfin de couper totalement le courant dans tout le pays. Le nuage arrive sur la France et donc on se prépare nous aussi à couper.
Mais c'est vrai ça ?
Non, ça s'est arrêté à la frontière.
À couper notre courant.
Allez-y, mangez les patates et machin, ça craint rien, ça s'est arrêté juste là.
Mais t'aimes pas depuis voir dans le noir ? Je trouve ça génial.
Ouais, c'est... Moi j'ai des trucs qui s'allument tout seul.
Ouais.
C'est plus récent.
C'est pratique à Tchernobyl. Ouais.
Non, on va pas plus loin, Nico. Ne dis pas qu'est-ce qui s'allume tout seul chez toi.
Donc en fait, le roman se passe avant la grande coupure, d'électricité.
Avant la grande panne.
Et après la panne, en fait. Et donc, on suit plusieurs personnages qui suivent tout ça, notamment le gouvernement français qui va s'installer sur l'île de Sein en Bretagne, qui a un groupe électrogène autonome, en fait. Donc du coup, voilà, ils vont s'installer là-bas.
C'est les Bretons. Les Bretons, oui.
L'île de Sein, la grande panne. Ouais. C'est un peu... Enfin, tout le livre, quand même, il y a peu...
On va demander un avis à notre spécialiste. Alors... de la Bretagne, après.
La Minute Bretagne.
La Minute Bretagne. Je sais pas. Pff, attends, fais la pluie.
Non, il fait beau, il fait beau en Bretagne, actuellement.
Ah, qui c'est qui faisait les mouettes ? Très bien, super, Valérie.
C'est une fable politique, en fait.
En fait, oui, voilà. Donc, on suit plusieurs personnages, dont effectivement le gouvernement. On suit Jean-Charles aussi, qui prépare une espèce de commune bis à Paris, qui prépare une grande rébellion à Paris. Nathanaël, qui est un brocanteur, qui va être engagé malgré lui comme un espion au service des États-Unis. Enfin, voilà, on suit tout plein de personnages. C'est un peu un roman choral autour de cet événement assez unique.
C'est quoi un roman choral ?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qu'on suit. Voilà, c'est comme une chorale.
D'accord.
Plusieurs voix.
Voilà, avec plusieurs personnages et plusieurs points de vue, plusieurs narrateurs.
D'accord.
Voilà. Donc c'est un roman vraiment, vraiment original qui tombe pas du tout dans le cliché, parce qu'on pourrait s'attendre effectivement à un roman un peu apocalyptique, c'est-à-dire, oui, c'est voilà, plus de courant, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde panique, etc. Alors que finalement, les gens sont plutôt heureux et apaisés d'être un peu déconnectés pendant cette période de la panne, et c'est vraiment décrit de façon très belle. Ouais, non,
donc
non, il y a
ça raconte
y a plus
comment
rien.
Les gens se remettent à vivre.
Voilà, c'est ça, ils se remettent à vivre sans leur portable, sans tout un tas de choses.
Sans rien, parce que tu fonctionnes tout à l'électricité aujourd'hui.
Mais ils ont eu un temps de préparation quand même.
Oui, voilà, et oui, ils ont eu un temps de préparation, tout à fait. Et je vais vous lire.
C'est pas l'anarchie, c'est pas du tout le chaos.
Bah non, du coup, non, comme c'est plutôt étonnant comme il a fait réagir les gens dans le roman.
C'est sur quelle saison ?
C'est très beau.
Parce que toutes les versions.
Ça se passe en été. Oui.
En été.
Ah, oui, d'accord.
Et bière chaude.
Parce que
quoi.
Toutes les versions qui dressent la fin de l'électricité. Tous les bouquins qui ont traité de ça, etc. À chaque fois, c'est une histoire de chaos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait une extinction, on revient au Moyen-Âge.
Alors quoi, évidemment, il y a des groupuscules qui tentent des choses, etc. Mais la police est quand même toujours là. On peut même sans, enfin, c'est pas vraiment le chaos total.
Ouais.
Et
oui,
je vais lire un petit extrait qui est assez représentatif de la réaction des gens suite à la panne. C'est un journaliste en fait qui a développé un journal pendant la panne et qui écrit cet article. Qui ne l'attendait pas, cette coupure, avec ce mélange d'angoisse et d'espérance propre aux hommes de bonne volonté. Mais j'ai peur du noir, crie un marmot agrippé à la manche de son papa, dont le regard laisse poindre une angoisse au moins égale. Maté le ciel, lance une jeune fille à son groupe d'amis installé sur les berges du canal Saint-Martin. Ce n'est pas le cannabis qu'ils fument comme à leur habitude qui les hallucine. Oui, les étoiles sont là, on peut voir les étoiles à Paris. Émotion. Voilà.
Donc elle découvre la vie, quoi, c'est ça ?
Oui, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu nuancé aussi, mais c'est très bien amené, je trouve. Et c'est original, c'est...
C'est de l'anticipation.
C'est intéressant.
Ça fait penser à une
catastrophe. Après, oui, on part quand même d'une catastrophe et d'un attentat. Il y a toute cette partie aussi qui parle du terrorisme.
C'est cinématographique. Mais...
Ah, tout à fait. Ah, ouais, oui, ouais. Ça pourrait faire un très bon film. Ouais. Ouais.
Il y a une série qui traite de ça aux États-Unis qui a été. Où il y a qui part zombies. De ce principe-là. Mmh. Non, du tout. Il n'y a aucun zombie. Ça s'appelle Révolution. C'est une série, il y a eu je ne sais pas combien de saisons, et qui traite
de la guillotine.
De la fin de l'électricité et tout ce que ça induit, quoi, en fait. Voilà.
Elga, sur ce livre, pourquoi ?
Désolée, j'ai fait ma rebelle. Aujourd'hui, j'ai choisi mon livre toute seule.
Non ! Allez !
Oh, quand même, respecte-moi.
Ça ne fait rien. Elga est obligée d'en parler.
Non, voilà, c'est le seul livre qui n'est pas dans la sélection d'Elga, mais la sélection d'Héloïse.
Il y a de très bonnes, critiques. Enfin, là, je suis sur un site qui en parle. Mais voilà, des gens disent j'ai dévoré la grande panne, surprise par le ton, la forme, les personnages décalés, pourtant c'est juste. Tout est fable, fantaisie, tout est crédible, intelligent, pertinent, cocasse. J'ai trouvé l'écriture maîtrisée, le talent est là, sans emphase.
C'est un roman politique, non ?
Voilà.
Merci, Nico, de tes interventions. Ok, parfait. Allez, vu que c'est ton anniversaire, tu passes en dernier.
Okay.
En dernière même. Peace to Vie. Alors moi, j'ai eu le gros livre de la sélection d'Elga de ces deux semaines, près de 200 pages, d'un petit renard qui s'appelle Peace to Vie. Alors c'est une bande dessinée. Elga, c'est l'histoire d'une petite fille, Jeanne, qui vit avec un jeune renard, Peace to Vie, dans une charmante cabane située au sommet d'un arbre géant. Un homme tracteur sillonne ces espaces infinis, fauchant sans relâche pendant tout le livre. Mais pour le pauvre bougre, eh bien, le vent, qui est représenté sous les traits d'une magnifique femme aux cheveux ondulants, s'applique à planter graines et semences qu'il tire de sa besace, et ainsi qui contrecarre les projets du défricheur qui défriche inlassablement la même parcelle, du coup. Et donc c'est dans ce monde que Jeanne et Pistouvi apprennent chaque jour l'altérité. Hein ? N'est-ce pas, Valérie, l'altérité qui est ?
On devrait utiliser ce mot plus souvent.
Ouais. Nico, l'altérité ?
Mais qui est le port des altères.
Voilà, donc c'est la connaissance de l'autre. C'est la connaissance
entre...
de l'autre. Ouais.
Ah, grâce aux altères, tu t'équilibres.
Alors, qui est symbolisé ici par des oiseaux persifleurs ? Alors, l'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre dans sa différence, en fait. Mais attention pour ce renardeau, eh bien... Les oiseaux, ces chants représentent un danger, celui de le transformer en oiseau, car lui peut parler aux oiseaux, sauf que s'il leur parle, le jour où il va leur parler, il va se transformer en oiseau, ce que veut pas sa petite amie Jeanne. Donc Jeanne l'empêche à tout prix d'approcher des oiseaux, de leur parler, parce qu'elle veut pas qu'ils se transforment en oiseaux, qu'ils partent. C'est extrêmement poétique, c'est extrêmement beau, c'est vraiment un très très beau livre. Donc Peace to Vie, en fait c'est une fable. Vous l'avez peut-être compris, empruntant ses symboles au monde des enfants. Alors d'abord, c'est une relation fusionnelle qu'ont ces deux héros qui s'accidentent un peu avec le temps.
Ah, mais c'est une BD en fait.
C'est une BD, c'est un conte. C'est un conte où le mal est invisible, mais il est présent, où le passage dans le monde adulte, qui est un changement malheureusement inéluctable, n'est pas sans créer quelques désillusions.
Ça fait penser à des dessins de manga, je te coupe, mais c'est un peu, non ?
Eh oui,
un
absolument.
Peu japonais, c'est ça ?
Absolument, d'ailleurs.
Moi, j'ai pas trop retrouvé l'imagerie manga dedans, pas beaucoup.
Mais au départ, ils l'ont créé pour un manga, en fait. Et, mais c'est un designer, Bertrand Gatigol, c'est un designer dans l'animation. Et donc, c'est vraiment...
Animation, ouais, mais pas forcément manga.
Pas forcément fait, manga, ouais. Non, mais... Bon.
C'est les gros yeux globuleux qui te font pas...
C'est ça.
Bah, le côté rond, les gros yeux...
Parlez dans vos micros, s'il vous plaît.
Le côté rond, les gros yeux...
T'as qu'à dire, parce qu'on est rond et qu'on a des gros yeux, on a l'air d'un manga.
Ouais, t'as une tête de manga, toi.
Beaucoup dans la symbolique, en fait.
Voilà, il y a énormément de métaphores. On est beaucoup dans l'innocence,
voilà,
des belles métaphores.
Voilà, on est un univers un peu asiatique. Hein.
Ouais, si tu veux...
Petit c'est renard, tout ça.
Le les traits sont très beaux.
T'imagines la petite fille ça fait partie du...
Ouais, je vais finir. Donc c'est pour moi, c'est une œuvre qui est rare parce que j'ai pas vu beaucoup de livres avec cette.
C'est très subtil.
C'est très subtil. C'est étrange, c'est fascinant, c'est poétique, c'est gentil, c'est touchant, c'est attachant, poil aux dents. Voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages.
Tu dirais pour quel âge, Ludo ?
Bah, tu as plusieurs niveaux de lecture, donc vraiment c'est très très large. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé.
Ouais, non, je suis d'accord avec Ludo. C'est la fable convient très bien à des enfants préadolescents. Et après, en le lisant en étant adulte, on voit beaucoup plus
de sens
à toute l'imagerie, à tout au dialogue et compagnie.
Alors, il a eu de très très bonnes critiques du monde, de beaucoup de journalistes qui ont trouvé ça un peu unique comme ouvrage. Donc je sais pas.
Oui,
sais
ça
pas.
Paraît mystique et en même temps on saisit beaucoup de choses sur le passage à l'âge adulte, l'amitié ou des choses comme ça. Quoi.
Et c'est une BD française en fait. Ça n'a pas été traduit. Non, c'est français.
Non. D'accord. Mais il y a une histoire avec les mangas. Ouais, je l'ai plus en tête en me renseignant dessus. Alors est-ce qu'ils voulaient le créer pour des mangas au départ et ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait dans ce sens-là. Est-ce que c'est tiré d'un manga? Je crois pas. Parce que c'est Merwan donc qui écrit ça, qui ne fait pas des mangas. En tout cas,
après,
c'est vraiment
un manga français. Enfin, faire un manga français, c'est assez osé comme.
C'est assez osé, ouais. Donc c'est vraiment à conseiller. Nico va tape Pistouvi plus manga sur son moteur de recherche qui n'est pas Google parce que c'est un rebelle et va nous dire dans quelques instants ce qu'il en a. En tout cas, c'est sympa. Une heure de qu'est-ce qu'on fait? On lance la musique ou ouais, on va lancer la musique pour que...
C'est Pauline qui décide. C'est son anniversaire.
Ouais, c'est son anniversaire. Quelle chanson, Héloïse?
Jane Birkin, Apocalyptic, issue de l'album X-Fan des Sixties.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'elle porte toujours du rouge à lèvres.
Je laisse les traces de mon passage sur tout ce que j'effleure avec mon maquillage. Apocalyptic, apocalyptic. Sur toutes les anatomies, ma bouche se dessine en décalcomanie. Apocalyptic, apocalyptic, apocalyptic. Lipstick. Tout ce que j'aime et que je touche, du bout des lèvres garde l'empreinte de ma bouche. Apocalyptic. Apocalyptic. Rouge de vamp ou de vampire, c'est avec ce crayon que s'inscrit mon délire. Apocalyptic, 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 apocalyptic.
Et voilà, c'était la chanson choisie par Héloïse. Une petite précision, Nico, concernant le manga et ce livre Pistouvi. En fin de compte, c'est pas tiré d'un manga, mais...
Non, mais le dessin limpide de Bertrand Gatignol puise du côté du manga sa puissance d'évocation, tout à fait.
Voilà, Bichem Télizarazou dans Téléfoot de dimanche dernier. Pauline
Oui.
Allez, fais-nous rêver.
Enfin, ah oui, tout à fait. Vas-y. Avec de l'amour et un peu de haine aussi. Un peu.
Ouais, oh non.
Et oui, il en faut toujours. Hein.
Non, non. Ça marche ensemble un peu.
Bon, moi, je vais vous parler d'Oscar Wilde. Je le présente pas, peut-être. Hein. On va pas perdre de temps là-dessus. Hein.
Si,
je voudrais quand même parler de l'importance d'être constant, parce que c'est quand même absolument génial. Moi, j'adore l'importance d'être constant. Et c'est aussi le portrait de Dorian Gray, c'est Salomé. Et donc là, on est sur quelque chose qui parle de lui. En fait, en 1895, donc en plein triomphe de l'importance d'être constant, Wilde avait vécu une histoire d'amour avec Alfred Douglas, un jeune homme qui surnommait Bozzy. Et le papa d'Alfred, marquis de Queensberry, désapprouve totalement.
Ah bah oui, on est à une époque où, attention, l'homosexualité...
Et oui, c'était, c'était quelle époque, d'ailleurs ?
Fin du 19e.
Ouais, pas facile.
1995, elle a dit.
Du coup, il tente, voilà, le père d'Alfred tente d'éloigner Wilde et son fils, et il va jusqu'à créer le scandale. Enfin, notamment, par exemple, il va avoir un des portiers d'un des clubs qu'Oscar Wilde fréquente, il lui donne sa carte de visite et il écrit dessus... pour Oscar Wilde, s'affichant comme sodomite. Donc il cherche vraiment à créer le scandale autour de son homosexualité. Et du coup, Wilde, un peu usé de tout ça, va lui intenter un procès pour diffamation et va perdre. En retour, le père d'Alfred Douglas, lui, intente aussi un procès. Et là, c'est Wilde qui va perdre et qui va être condamné à 2 ans de travaux forcés.
Mais un procès, pourquoi ? Pourquoi il l'attaque, du coup ?
Pour l'homosexualité.
D'accord, tout simplement.
Voilà,
d'accord.
Ouais. Ouais, qui est illégal à l'époque, quoi. Donc, il arrive en prison, il se fait transférer, alors je ne sais plus en quelle année, à la prison de Reading, et là, il a le droit, enfin, on lui donne le droit d'avoir un stylo, du papier, et d'écrire. Et donc là, il va commencer une correspondance, et notamment la longue lettre dont je vais vous parler, qu'il adresse à Alfred Douglas, donc son ancien amant.
Profundis.
De profundis.
Pom, pom.
Hein ?
Vous la connaissez pas, cette chanson ?
Valérie la connaît.
J'ai honte d'avoir suivi ton chant.
Autour, au niveau des chansons, hein, on ressortira des extraits.
C'est le recueil, c'est la lettre. C'est que la lettre ou c'est
voilà,
le recueil ?
Que la lettre. Alors, c'est une lettre de 150-200 pages. Hein, c'est pas une petite lettre. Et donc, en fait, cette lettre, il fait... Dans cette lettre, Wilde fait le récit de tout ce qu'il a vécu avec Bosie et qui lui ont mené, finalement, à toute cette ruine, à cette ruine de la personne qu'il est, de son art. Il lui a aussi ruiné son art financièrement. Il s'est retrouvé ruiné.
C'est ça, ouais. C'était complètement...
Voilà, il liste tous les événements, tout le caractère de Bosie et toute cette relation qui était très particulière qu'ils avaient finalement. Ils avaient une relation extrêmement de grosse dépendance, mais sur des choses plutôt malsaines, en fait. Et du coup, ouais, il va accuser Bosie de tous les maux. Et il commence par nous dresser un portrait d'Alfred Douglas qui est extrêmement dégradant. On voit, c'est quelqu'un de très lunatique, de manipulateur, d'extrêmement cupide. Il réclame beaucoup d'argent à Wilde pour vivre sa vie qui est, selon Wilde, très superficielle. Et en plus, là, Wilde, avec le recul, il dit, mais en plus, il y avait un fossé énorme entre nous concernant la culture artistique. Alors, il y a son petit côté un peu... C'est des grosses chevilles, Wilde, là-dessus.
Ah, c'était un esthète, hein.
Ah, il avait une estime de lui-même. On le ressent, hein, dans cette lettre qui... Bon, en plus, là, je pense qu'il veut... Il veut se mettre en avant, en fait. Et du coup, pour moi, ça a été d'abord une liste de reproches. Voilà, de reproches. Tu m'as blessé, tu m'as... Voilà, il raconte des événements où Douglas, il est... Enfin, il est infect. Wilde est malade... Lui, il s'en va, il le laisse à l'hôtel tout seul en souffrance, alors que la semaine passée, c'était l'inverse et que Wilde est resté à s'occuper de lui. Enfin, voilà, des petits événements de querelles d'amoureux qui font que... Voilà, Wilde a beaucoup souffert. Bref. Il parle aussi de ses conditions de détention qui sont mauvaises, de sa solitude et puis de la perte qu'il a de son art, de plus pouvoir écrire. Et puis, finalement, avec un peu de recul, ce dont on se rend compte aussi, je trouve, c'est que finalement, c'est une lettre aussi d'amour, parce qu'on n'écrit pas une lettre pareille, je pense, à quelqu'un...
De dépit amoureux aussi, de déception amoureuse.
Oui, ouais, en fait, il dit déjà au début de la lettre, il dit qu'il avait décidé, en rentrant en prison, de garder tout l'amour dans son cœur. Il disait, si j'allais en prison sans amour, que serait devenue mon âme ? Et du coup, il se repose sur cette relation avec Bosie, qui pourtant l'a mené en prison, qui a été la raison de sa venue en prison pour essayer de garder l'espoir de survivre en prison, finalement. Et donc, je pense que vraiment, il y a un amour sincère de la part de Wilde. Et alors, bon, on n'a pas du tout de témoignage là, d'Alfred Douglas, mais pour qu'il revienne à ce point-là, on se dit que là aussi, il y avait quelque chose. Et finalement, c'est ce qui le fait aussi souffrir, Wilde. C'est-à-dire, il a essayé de s'éloigner d'Alfred Douglas parce qu'il le faisait souffrir et jamais il y est arrivé. Et au point de se laisser complètement détruire par cet amour. Du coup, voilà, pour moi, c'est un des aspects les plus intéressants de la lettre, et à la fois très, très triste et très désespérant même. C'est tous ces regrets qu'exprime Wilde. C'est hyper ambigu, c'est ses sentiments. Il n'arrête pas d'accuser Douglas. Il le pousse à se remettre en question, mais parce que, voilà, parce que finalement, je pense qu'il l'aime, mais il n'est pas celui qu'il voudrait qu'il soit. Et ça, c'est souvent les problèmes des relations d'amour. L'amour, on ne l'explique pas. On tombe amoureux de quelqu'un qui ne nous le rend pas, déjà, parce que clairement, là-dedans, dans ce que raconte Wilde, Alfred Douglas ne rend pas du tout son amour à Wilde. Et en plus, on ne s'explique pas pourquoi on aime. Parce que quand il liste tout le mal que Bosie lui a fait, on se dit, mais pourquoi il était amoureux de lui? Parce que, tout simplement, on n'explique pas, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Et voilà. Il a eu une réponse ou pas? Il l'a envoyé? Est-ce qu'il lui a répondu?
Il l'a fait confier, en fait. Il avait demandé à ce qu'on lui confie l'original. Finalement, c'est une copie, une mauvaise copie qui lui a été confiée. Et je ne saurais pas dire s'il a eu une réponse. Non. Il ne semble pas, vu le caractère.
Non, il n'a pas eu de réponse. Et de toute façon, après la prison, Wilde a tenté de revenir en Angleterre et il s'est rendu compte que sa réputation était complètement ternie. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est parti à Paris et il est mort en 1900 à Paris, dans la plus grande solitude, la misère. La relation avec Bosie marque le début de sa déchéance et qui va croissante.
Il est mort jeune, c'est ça? 46 ans. 46 ans,
C'est pas trop lourd à lire, ça fait pas trop monologue.
Si, ça fait monologue, alors c'est des gros pavés de paragraphes, mais finalement, ça va. Il y a plein de choses, ça fourmille de plein d'événements, plein
d'anecdotes,
de sentiments.
De choses comme ça.
Et du coup, ça se lit plutôt vraiment comme une lettre, une longue lettre. Et
c'est assez vif malgré tout.
Oui,
quoi.
Oui, voilà.
Ça s'enlise pas dans une écriture qu'on pourrait croire très lourde et compagnie, mais non, pas du tout. En fait.
Voilà, Pauline, elle a les livres légers à lire. Il y en a qui ont des pavés.
On notera que c'est pas moi qui lui ai donné.
Je sais pas, c'est quelque chose en moi.
Ok, merci.
Ça t'a beaucoup plu alors?
Ça m'a
touché.
Ça m'a touché. Ouais, ça a éveillé plein de choses en moi, vraiment.
Allez, Valérie, une blague, ça l'a touché?
Non, j'étais en train de penser au livre de la grande panne, mais j'ai pas trouvé de rapport.
D'accord, très bien. Elga, il n'y a pas de raison que tu t'aies pas choisi un livre aussi?
Mais oui.
Bah oui, qu'est-ce que tu nous présentes?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Middlesex, un roman de Jeffrey Eugenides, qui a notamment eu le prix Pulitzer en 2003. Donc, je tiens à le préciser. Et donc, ce roman va nous parler de Cal ou Calliope, qui sont en fait une seule et même personne. Au début du roman, on retrouve Cal, un homme de 40 ans, qui est à Berlin et qui nous dit qu'il a eu deux naissances. Une en 1960, quand il est né à Détroit en tant que petite fille, et dans un hôpital à 15 ans, quand il a découvert qu'en fait, il était hermaphrodite. Donc, on a deux destins qui vont se lier.
Comme Nico. C'est quoi un hermaphrodite?
Un hermaphrodite, c'est une personne qui est intersexué, en fait, qui a des...
Qui possède les deux gonades.
Les deux sexes.
Comme les escargots.
Aucun des deux sexes.
Comme les escargots.
Soit on peut reconnaître un sexe, soit pas du tout, en fait. Et donc, Cal est né en 1960 et on l'a déclaré fille. Et en fait, il a les chromosomes d'un garçon.
C'est une histoire vraie ou c'est un roman?
Non, c'est pas une histoire vraie, mais l'auteur a fait beaucoup de recherches sur l'hermaphrodisme et sur notamment
existe,
des gènes qui...
Oui, c'est pour ça.
Le prix Pulitzer, ça récompense un travail journalistique.
Aussi, aussi. Et donc, Cal est issu d'une famille grecque-orthodoxe qui a fui la Grèce. Donc, on va retrouver ses deux grands-parents, Desdemoda et Lefty, à Smyrne en 1922, et qui partent juste avant le grand incendie de Smyrne par les Turcs. Ils partent à New York, et on va suivre cette famille, en fait, on remonte 70 ans auparavant, puisque Cal va chercher dans sa famille quelle est la malédiction dans la génétique, en fait, qui l'a fait comme ça.
Qui a merdé, quoi, en gros.
Voilà, qui a fait que moi, j'ai un gène maudit et je me retrouve avec ça. Il n'est pas du tout accusateur face à sa famille et face aux choses qu'elle a pu faire qui l'ont rendu comme ça, mais il va chercher, en fait, pour se construire, il va chercher ce problème génétique.
C'est qu'il est persuadé qu'il trouvera une réponse comme ça?
Oui, mais il en trouve une, et ça, c'est l'histoire de la famille. Après, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais la famille porte en elle quelque chose qui a donné cet hermaphrodisme, en fait. Donc, Calliope est élevée comme une fille, et elle sent que quelque chose cloche. À 15 ans, elle découvre sa seconde naissance qui après va l'amener à plein de choses. Et voilà, elle devient Cal. Ce livre, c'est une épopée gréco-américaine qui est une fable mythologique. En fait, il y a la Grèce antique qui est très présente par la famille, par aussi le mythe de l'hermaphrodite qui est représenté, avec Tirésias notamment. Mais c'est un grand roman avec plusieurs niveaux de lecture. On a autant la psyché de Cal, la famille, la mythologie grecque qui se mêle, et il y a des références historiques, culturelles, avec un ton cynique, mais absolument juste, qui va nous faire...
Allez, vas-y, balance. Qu'est-ce que tu as vu, Valérie ?
J'ai vu Nicolas jouer avec ses génitoires.
Très bien.
Non,
Allez, ne faites pas attention à ce que vient de dire Valérie. Chers auditeurs, on va poursuivre.
Et donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce livre avec cette famille spéciale, ce personnage qui nous parle du genre, en fait, sans en faire un drame. C'est pas qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon, c'est difficile. Non, c'est très juste, c'est très délicat sur un sujet dont on parle beaucoup sans en savoir grand-chose.
Tu me passes une tomate, s'il te plaît, Nico. Ça a l'air compliqué comme livre. Ça a l'air assez...
C'est compliqué à résumer, mais en fait...
Mais à lire, c'est pas compliqué non plus.
Le personnage nous donne... c'est très, très facile à lire, en fait. Et du coup, c'est tellement historique, mythologique, qu'on est pris dans le bouquin et on fait pas attention à cette histoire qui paraît compliquée.
Il y a beaucoup de...
Le micro, Valérie, s'il te plaît.
Il y a beaucoup de retours possible, à l'arrière sur la période grecque.
Il y a beaucoup... En fait, c'est plusieurs parties, quoi. Au début, il nous explique qu'il est à Berlin, patati patata.
C'est plusieurs parties, Nico.
Et dès le début, en fait, il revient à ses grands-parents en 1922. Et après, il va faire toute l'histoire. Ses grands-parents arrivent à New York, la naissance de son père, la naissance de sa mère, pour arriver vers lui. Donc voilà, il y a plutôt cette partie où il retourne en arrière et après où lui nous parle de son enfance. Et même quand il évoque son enfance, il dit Calliope, il dit pas je, il dit Calliope, elle... comme s'ils étaient totalement différents, alors que ce sont une seule et même personne.
Ça se lit bien ?
Très, très bien.
Très, très bien. OK, parfait, merci.
J'ai une petite question quand même. Qu'est-ce qui lui fait réaliser qu'elle est...
Qu'elle est il, ouais.
Elle le sent...
qu'elle est les deux, du coup.
Elle est les deux avant qu'elle le découvre. Et une fois qu'elle le découvre, elle rompt totalement avec la féminité.
Elle
décide d'être un garçon parce qu'elle sait qu'elle a des chromosomes XY et elle se dit que du coup c'est pas possible d'être une fille.
D'accord.
Et il y a plein de petits, notamment la génétique, mais après il y a plein de petites scènes où elle se rend compte qu'en fait elle pense pas du tout comme une fille. Quoi. Elle a été éduquée comme telle, mais son fort antérieur lui renvoie à pas une masculinité parce qu'elle le comprend pas, mais en tout cas des petites failles ou des choses qui déconnent un peu, quoi.
Les faiblesses masculines. Et toi, pendant que tu le lisais, tu imaginais ton personnage en comment, plutôt féminine ou plutôt masculine?
Ça dépend du temps du récit, en fait. Quand elle évoque son enfance, si on voit une petite fille qui ressemble un peu à un garçon parce que le physique la trahit un peu, quoi. Et après, quand il parle de lui en tant qu'homme, ouais, on imagine un homme de 40 ans, tout à fait, quoi. Il est très, très fort sur ça, nous faire ressentir deux personnages très différents, alors que finalement, ils sont tout à fait semblables.
Il est connu, cet auteur ?
Il est connu pour avoir écrit « Les Vierges Suicidées », qui a fait le film « Virgin Suicide » de Sofia Coppola.
Ah, j'ai pas vu.
Et il y a aussi...
j'ai pas vu, hein. Ouais. Je vais maintenant te mettre des coups sur les doigts. Tu parles dans le micro, s'il te plaît.
Pardon.
Qu'est-ce que tu disais ?
Un micro pour deux, c'est dur.
Oh !
Si on veut parler en même temps, on se tape le front.
Alors, il aurait écrit apparemment Virgin Suicide, c'est ça ?
C'est exactement ce qu'il vient de dire.
Et le roman du mariage ?
C'est ce que vient de dire Elgar.
Bravo de suivre.
My mistress, Sparrow is dead.
Ça veut dire quoi ? Mes mystérieux parents sont morts.
Sparrow is dead.
Voilà, c'est ça.
Moi, ouais, je suis.
Ouais, c'est ça. Qui c'est qui avait deux livres, qui a lu deux livres aujourd'hui ? Valérie, je sais, qui s'est régalée de Dostoïevski.
J'ai adoré Dostoïevski.
Héloïse, tu avais deux livres aussi ?
Non, moi j'en avais qu'un.
Ah non, c'est Elga. Ouais. Allez, Valérie, tu veux nous en parler ou sinon on laisse place à Elga, il reste très peu de temps.
Non, je vais laisser la place à Elga parce que Dostoïevski, c'est pour terminer.
C'est cool, Dostoïevski. Ouais.
C'est quand même les carnets du sous-sol là, que tu m'as donné à lire.
Oui, bon, d'accord.
Monologue dans une cave.
C'est ça qui est bien.
Allez, deuxième livre, Helga, qu'est-ce que tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi de vous parler de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé, en fait, dans les librairies, que c'est un livre qui est sorti en poche récemment. Donc, en fait, c'est le premier tome d'une saga qui est écrite par Elena Ferrante, une auteure italienne. Et le nouveau nom, qui est le deuxième tome, vient de sortir chez Gallimard en France. Ils sont en train d'être traduits, les autres. Et L'amie prodigieuse, donc, revient sur l'histoire d'Elena et Lila. On se retrouve à Naples, dans les années 50. Elena et Lila sont deux enfants qu'on va suivre tout au long du roman, qui vivent dans un quartier pauvre et défavorisé. Et voilà, on va suivre ces deux petites qui, au début, sont très liées, notamment parce qu'elles vont à l'école toutes les deux, et après, elles vont prendre des chemins différents. Ça évoque l'enfance et, par exemple, la première scène où on voit leur amitié, c'est quand elles affrontent, en fait, quelque chose qui leur fait peur, notamment une personne du quartier où elles décident d'aller chez lui et compagnie, alors que c'est quelqu'un qui terrorise tous les enfants du quartier.
Et après, il faut dire qu'il y en a une qui pousse plus l'autre à
voilà,
faire ce genre
ça.
De choses.
Elles sont très différentes, très complémentaires.
Oui. Et c'est autobiographique, Elena, c'est...
Je ne sais pas. Elena, sachant qu'Elena Ferrante est une auteure, en fait, ce n'est pas son vrai nom. Et on ne sait pas qui elle est en réalité. Donc
Pauline
je ne peux pas dire si Elena, l'auteur, est la même Elena que la petite fille. Quoi.
Et ça se passe où, dans quel pays ?
À Naples.
À Naples.
Ouh, il n'écoute rien, ça y est, on l'a perdu.
Sur Internet, elle fait le jeune, il guide.
C'est ça.
Il joue aux démineurs. Je suis pas trop mon record.
Oui. Et voilà, donc Lila est vive, volontaire, elle est prête à tout, elle est très courageuse, voire téméraire. Et Elena observe, elle hésite, et Lila fascine, Elena passe inaperçue. Toutes les deux sont très différentes, et en même temps, c'est leur force dans ce petit duo. Et après, en fait, tout va s'inverser. Lila reste prisonnière de ses rêves, elle va se marier à 16 ans, avec quelqu'un du quartier, et pas du tout évoluer, finalement. Et Elena a la chance de pouvoir aller au collège, puis aller au lycée, ce qui n'est pas forcément évident à Naples, dans les années 50, pour les jeunes filles, quoi. Et du coup, elle accède à un autre avenir. Et il y a aussi toute cette ambiance typique de l'Italie, le quartier, les familles qui se connaissent toutes,
les
rivalités.
C'est une ambiance absolument géniale
voilà.
Dans le livre.
Avec des gens dont on doit se méfier, qu'on doit détester. Par contre, ceux-là, bah, il faut un peu leur lécher les bottes. Et voilà. Mais c'est très, très sympa comme ambiance et ce duo qui sort de l'ordinaire, quoi.
L'histoire va jusqu'à quand de ces deux jeunes filles ?
Ça finit au mariage de Lila, donc elles ont 16-17 ans. Et ah oui. Après, du coup, je pense que le reste de la saga va évoluer, leur vingtaine, leur trentaine et compagnie, quoi. À voir pour la suite.
On sait combien de livres doivent sortir ?
4.
4.
Il y en a 2 sortis en France, L'amie prodigieuse et Le nouveau nom.
Celui-là, c'est le premier, alors ?
Ouais.
C'est un des romans favoris de Daniel Pennac,
oui.
Ce livre.
Il l'offre à tous ses amis, apparemment.
Voilà, ils l'ont mis sur une charmante jaquette.
Il ne me l'a pas offert encore.
Ouais, moi non plus, ouais. Il a dû me zapper. Hein.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ouais. Pour remercier les auditeurs qui ont tenu jusqu'à là, une petite info, Héloïse.
Oui, alors vous devez sans doute le savoir si vous êtes fan, mais il y aura un Harry Potter numéro 8 et il sort le 31 octobre. La date est décidée, voilà.
Et c'est quoi ? C'est la suite
C'est 19 ans plus tard. Harry travaille au ministère de la magie. Son fils a quelques problèmes d'identité, vu son papa, je comprends. Et voilà, il va gérer les problèmes de son petit garçon.
C'est qui la mère de...
Oui, c'est pas seulement, j'ai
jamais vu. La mère, c'est Ginny.
C'est celle qui avait les cheveux longs là-dedans les...
C'est
la rousse.
C'est la sœur de Ron, son meilleur ami roux.
Ah oui,
la
d'accord.
Petite sœur de
oui,
Ron,
qui l'embrasse ouais. Un moment dans un des films.
Oui, oui.
Comment
Non, ils ont un an de différence.
Comment elle expliquait sortir un livre de plus et sous la pression populaire, c'est dommage. Quoi.
En fait,
c'était
voilà.
Fini.
Donc, il faut préciser que ce livre.
Oui,
oui, oui. Mais donc, du coup, ça, c'est une pièce de théâtre. Elle a écrit la suite en pièce de théâtre.
C'est une pièce de théâtre qui sort alors.
Oui. Tout
d'accord.
À fait.
Ah, donc c'est
et donc, il va être adapté bientôt. Là, les acteurs ont été choisis, qui va bientôt tourner en Angleterre. Et donc, le 31 juillet, le texte sort en anglais et le 31 octobre en français. Voilà, chez Gallimard. Mais ça, c'est un gros événement éditorial. Malgré le fait que ce soit une pièce de théâtre, tout le monde a envie de savoir la suite. Enfin,
oui.
La majorité de
personnes. On sait qu'elle l'a dans sa tête, pour le coup. Tu parlais de pression populaire, mais je crois que c'est un monde qui est complètement
fait dans son esprit, et du coup c'est pas quelque chose qu'elle a créé sous une pression voilà, du public ou des éditeurs ou de je ne sais
oui,
quoi.
Oui, elle le
je,
sait.
J'imagine, d'après ce qu'on
entend. Mais après, elle entretient régulièrement un site qui s'appelle Pottermore aussi, où elle alimente vraiment l'histoire d'Harry Potter et l'histoire qu'elle crée. Elle a inventé plein d'autres écoles de magie,
de biographies, de tous les personnages sur Pottermore.
Tu peux aller sur Pottermore, Nicolas, et savoir et voilà et savoir dans quelle maison tu es affecté. Tu peux mettre le choix pot.
Oui. Merci, Pottermore, homme.
Voilà.
D'accord, c'est bien qu'elle ait fait sous forme de pièce de théâtre. Ça va peut-être pousser ces jeunes lecteurs, enfin qui sont plus très jeunes maintenant. Pourquoi tu montes Popo ?
Est-ce que c'est un cadeau pour cette fin pour les fans.
Ah, ben voilà.
Je l'ai dit une fois par an à peu près.
23 ans, on a dit.
À l'automne, pardon. Et elle a un tatouage aussi d'Harry Potter.
D'accord.
De Gryffondor.
Ok, très bien.
Voilà. Bon. Et donc, bah, la semaine, dans deux semaines, dans deux semaines.
Dans deux semaines, on sera le combien ? Le 10. Non, on sera le 17. Donc, ça sera la dernière de l'année.
La dernière. Et avant de partir en vacances, on va parler de voyages et de destinations inconnues.
Voilà. Parfait. Et le 21 juin, la fête de la musique.
Oui.
Alors, vous n'avez pas encore répondu à mes mails, mais...
On a tous dit oui à la dernière d'accord. émission que nous a demandé.
Alors, je ne sais pas pourquoi on ne t'entend plus. Ta voix, elle ne marche plus dans le micro, Valérie.
Peut-être parce que je me tiens trop loin.
Ah, voilà, c'est beaucoup mieux, là. On va t'obliger à avoir un casque dans deux semaines. Ok, les voyages, et après, le 21 au soir, restez sur les ondes, on vous proposera une demi-heure, voire une heure de musique choisie par les soins de cette équipe. Merci beaucoup, Helga, de ces propositions.
Avec plaisir.
Très intéressante.
Oui, on s'est régalé.
On s'est régalé.
Bah, tant mieux alors.
Ça change un peu des livres qu'on a l'habitude de
lire. Voilà.
Heureusement que c'est la dernière bientôt parce que.
La sélection qui est faite par.
Il n'y avait pas de suicide, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de.
Ouais. C'était cool. Allez, et comme dirait Valérie.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
FM. 48 FM.